Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Comment prévenir les accidents domestiques chez les enfants? On en parle avec Isidore Bamanaï. Il est éducateur à la vie. C'est courant dans plusieurs familles de connaître parfois des accidents domestiques chez les enfants. Il suffit d'un petit moment, d'une attention. Un enfant peut se renverser de la table ou s'est brûlé les doigts au feu. Et ces accidents domestiques ont déjà même parfois coûté la vie à certains enfants. Comment éviter ces genres d'accidents domestiques? On en parle avec Isidore Bamanaï. Le numéro d'appel, c'est 081. 890-63-94, il est également le numéro SMS pour écrire vos questions, vos préoccupations. C'est le 081-711-50-01. Isidore Bamanaï, bonjour.
Bonjour Marcel.
Voilà, Isidore, est-ce que on peut d'abord avoir une idée sur les différents types d'accidents domestiques qui peuvent arriver à survenir à la maison chez les enfants?
Oui, merci beaucoup Marcel. Il y a autant d'accidents qui peuvent arriver dans une maison. Par exemple, l'enfant peut se brûler, l'enfant peut se blesser avec le couteau, avec une lame de rasoir, l'enfant peut glisser et tomber, aussi l'enfant peut casser un verre, il peut casser des assiettes en porcelaine, ou l'enfant peut laisser le fer à repasser allumé. S'il passe par là, il peut se brûler, ou le fer lui-même peut enclencher feu dans la maison. L'enfant peut rester à la maison avec une bougie alors qu'il dort. Si la bougie s'allume petit à petit et qu'il y a une mousse à côté, elle peut se renverser sur la mousse. C'est toute la maison qui prend le feu. Donc, il y a autant d'accidents qui peuvent arriver à la maison auxquels les parents doivent faire très attention.
Alors, comment doit-on faire pour le prévenir? C'est pas aussi évident pour les parents d'avoir toujours un œil sur les enfants. Il y a toujours un petit moment d'inattention et puis un accident vite arrivé. Un enfant peut se renverser de la table, comme vous avez, comme on l'a dit également, se brûler les doigts au feu.
Oui. Je crois que le premier effort que les parents doivent faire, à mon point de vue, c'est d'abord assainir les milieux de vie. Si les milieux de vie ne sont pas assainis, un accident auquel on ne pense pas peut aussi arriver. Parce que nous avons des enfants qui sont tout le temps malades, qui ont le palud, qui ont la fièvre typhoïde, parce que nos milieux de vie ne sont pas assainis. Nous vivons avec les mouches et le cancrela et les rats dans nos maisons. L'enfant peut dormir, on vient ronger ses doigts par un rat. Il se réveille le matin, c'est aussi un accident, parfois auquel les parents ne font pas très attention. Donc, il faut en premier lieu assainir le milieu de vie, entretenir la maison, et maintenir la maison dans un état de propreté, mais aussi que la maison soit suffisamment aérée, parce que si on vit dans un milieu qu'on est étouffé, les histoires sont entassées. L'enfant peut être tout le temps avec un cerveau qui est encombré, mais aussi il peut arriver à avoir la maladie de l'asthme, comme le médecin l'avait dit à l'émission, je ne sais pas, d'avant-hier. Donc, il faut que la chambre soit suffisamment aérée, de telle manière que l'air passe suffisamment. Et l'air, quand il passe suffisamment, il va aussi aérer le cerveau et l'enfant peut grandir comme il faut. C'est aussi les soins. Les parents doivent faire attention aux soins pour les enfants, et particulièrement les vaccins. À un certain âge, les enfants doivent avoir les vaccins. Les médecins savent quand les mamans se rendent à la CEPOL. Ils reçoivent toutes les instructions qu'ils doivent suivre pour les vaccins. Parce que si l'enfant n'est pas vacciné, il peut devenir infirme pour toute sa vie. Vous avez le cas d'un pongologue qui est resté infirme pour toute la vie à cause de... Donc ce ne sont pas des choses à négliger. Il faut vraiment que les enfants soient bien soignés. Bien soignés là aussi, c'est bien habillé. Leur apprendre toujours à porter des souliers ou des babouches. Comment utiliser la brosse à dents et tout ça. Parce qu'on ne se rend pas compte que si les dents sont pourries, et les accidents, les infections arrivent et l'enfant ne va pas grandir normalement.
Et par rapport aux accidents domestiques, lorsqu'on on a un enfant turbulent, il y a des enfants qui sont beaucoup plus turbulents que les autres, qui sont vraiment des véritables touches à tout. Et il faut vraiment pas s'hasarder à laisser quelque chose à la portée de leur regard. Donc, comment faire pour ces genres d'enfants qui sont des véritables touches à tout?
Ah, merci Marcel. Je crois que la première des choses, c'est que les parents doivent faire un effort d'observation pour découvrir chaque enfant, comment il est. Parce que nous sommes une pièce irremplaçable. Chaque enfant a ses aptitudes. Si on a un enfant très turbulent, il faut le connaître. Cet enfant très turbulent, il faut lui donner des choses qu'il doit toucher. Il a ses jouets, il a des papiers pour dessiner, il a autant de choses qu'il peut utiliser, de telle manière que s'il voit d'autres choses dans la maison, qu'il ne soit pas tenté d'aller les toucher. Or, quand nous vivons régulièrement ici, nous ne sommes pas habitués à donner à nos enfants des jouets. Et même parfois, quand eux-mêmes construisent leurs jouets, nous allons les jeter, nous allons les gronder, comme quoi ils ont sali la maison, et ainsi de suite. Il faut vraiment donner à cet enfant-là ce qu'il peut utiliser comme objet, mais aussi pour que son cerveau soit tout le temps occupé à faire quelque chose. Ainsi, les choses de la maison sont plus ou moins épargnées. Et alors, il faut aussi disposer bien les choses dans la maison. Les choses qui peuvent amener les accidents, on les range à un endroit où l'enfant n'a pas accès. C'est soit dans l'armoire, on a fermé l'armoire, c'est soit dans la chambre, on a fermé la chambre, c'est soit sur une étagère assez haute où l'enfant ne peut pas grimper et arriver au-dessus là et se renverser avec l'objet qu'il recherche. Donc, il faut les ranger dans un endroit où ils ne peuvent pas accéder facilement, mais aussi dans la maison, dans toute la maison, il faut qu'il y ait un ordre. On ne doit pas laisser une lame de rasoir par terre. On ne doit pas laisser le couteau qu'on a utilisé pour aménager, pardon, pour préparer les piodi ou les Thompson ou les chinchards. On ne doit pas les laisser sur la table alors qu'on sait que si cet enfant-là s'approche, il va prendre le couteau. Eh bien, il risque de s'enfoncer le couteau dans les yeux. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il faut que chaque chose a sa place. Les verres sont à leur place, les gobelets sont à leur place. Et les couteaux aussi sont rangés à un endroit où l'enfant ne peut pas arriver facilement pour perturber l'ordre. Donc il faut vraiment donner l'ordre dans la maison. Et quand on a inscrit cela dans le cœur de l'enfant, il faut petit à petit l'instruire. L'instruire quand on a utilisé, on a besoin d'utiliser un couteau, on l'utilise à ceci, à cela. C'est qu'on l'a utilisé, si c'est déjà un enfant qui peut utiliser le couteau, après l'usage, il faut le ranger. Pour les ranger. Donc cela s'appelle maintenir de l'ordre dans la maison.
Mais Isidore Bamana, il y a également un type d'accident qui arrive généralement à Kinshasa. Je pense bien que c'est le cas aussi dans d'autres centres urbains où il y a des problèmes de perturbation de la fourniture du courant électrique. Ça, il y a des fois on branche soit le fer à repasser, soit le réchaud, il y a les courants qui partent et on oublie de débrancher. Et on sort de la maison, on est peut-être préoccupé à autre chose et puis il y a l'enfant par curiosité alors que le courant était déjà revenu, qui peut passer par là, qui se brûle le doigt ou peut-être même la main.
Ah oui, ça c'est un problème d'inattention. Je crois que quand on est attentif, et quand on veut épargner les enfants des dangers qui peuvent arriver d'un moment à l'autre dans la maison, l'instruction est que quand on a coupé le courant, on débranche tout. On débranche le frigo, on débranche le téléviseur, on débranche les cuisinières et même s'il y avait un fer à repasser qu'on utilisait, on ferme avant de débrancher. Donc on débranche tout dans la maison. Et les parents doivent surveiller de plus près quand on a coupé le courant, est-ce qu'on a tout débranché? Et il faut instruire régulièrement les enfants, j'insiste là-dessus, que quand le courant est coupé, il faut tout débrancher. Je crois qu'on peut avoir de grands enfants dans la maison qui sont aptes à faire ça. Si on a des tout petits là de 3-4 ans, peut-être pour eux débrancher, ils n'arrivent pas à bien faire l'opération. Donc les grands enfants qui sont là doivent faire attention. Et quand il y a coupure, on débranche. Quand on a rétabli le courant, on peut brancher un appareil que l'on veut utiliser. De telle manière que si on vit de cette manière-là, avec un peu d'ordre dans son esprit, il n'y aura pas assez d'accidents dans la maison.
Voilà, comment prévenir les accidents domestiques chez les enfants? On en parle avec Isidore Bamana, il est éducateur à la vie. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne, Albert Mwananga, qui nous appelle du Kenenga, dans les Casses occidentales, et Malonga, qui est à Bandundouville. Vous pouvez également faire comme nos deux auditeurs, en nous appelant au 081-890-63-94.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible, et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Albert Mwananga, vous êtes à Kananga dans le Kassa occidental. Bonjour Albert.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à notre invité Isidore Bamanaï. Et à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Je vais intervenir à propos de ce sujet, monsieur le journaliste, concernant notre thème du jour. Donc, je dois passer à la première préoccupation.
Allez-y.
Est-ce que la conséquence subie par un enfant, par exemple, on interdit de jouer au feu, et on remarque que l'enfant-là ne veut pas comprendre, il est vraiment incompréhensif. Pour finir, il s'épuise. Alors, il se sent qu'il est très mauvais de jouer au feu. À ce moment-là, est-ce que cette conséquence peut contribuer à l'éducation de l'enfant ou comment? Alors, la deuxième préoccupation, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Que faut-il faire pour un enfant très incompréhensif et qui est incompréhensif en tout et en pour tout? Il y a un adage qui dit « l'enfant reflète l'image de son père ». Lorsque son père se rend compte que l'enfant est en train de recopier ou bien de reproduire les mêmes effets, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter à son enfant lorsqu'il est en train de recopier les mêmes effets et qu'il produisait son père? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et merci à notre invité.
Merci, Albert. Malonga, vous êtes à Bandundouville, dans la province du Bandundou. Bonjour, Malonga.
Oui, bonjour, monsieur François.
On vous écoute, Malonga.
Ok. En tout cas, je vous salue tous d'abord et notre invité qui est vraiment doyen expérimenté. Bon, moi, je vais demander, j'ai été satisfait d'abord pour les explications et les questions que vous avez demandées à notre invité. En tout cas, vous nous avez beaucoup aidé. Mais je vais ajouter que moi, je sais d'abord, caractère commun de tous les enfants, c'est le désordre. L'enfant est toujours désorganisé et désordonné. Alors, je vais demander, un enfant toujours enfant, même nous qui sommes déjà les adultes, nous sommes enfants par rapport à nos parents. À quel moment ou bien à quel âge on peut se débarrasser des désordres de l'enfance? Puisque ici je vois, si un grand garçon, il est attrapé par une fille là-bas, c'est son parent qui est appelé. Il doit juger. Si une fille aussi, elle est enceintée de ses parents, alors la charge de supporter toujours l'enfant sont continuelles. Ce n'est pas, est continuelle. Je ne sais pas à quel niveau on peut se débarrasser des désordres de l'enfant. On commence avec les désordres de l'enfant à l'âge 0, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on supporte. Mais même l'enfant est devenu responsable chez soi, le parent toujours subit le même choses qu'il subissait en cas de l'enfance. C'est par là que je demande à notre invité de bien éclaircir. Est-ce qu'il y a un moment ou bien il y a un temps, un parent peut se débarrasser des désordres-ci de l'enfant?
Merci Malonga, vous appelez donc de Bandundouville dans la province du Bandundu, Isidore Bamanaï.
Merci Marcel, merci Albert, je les salue, je salue aussi Malonga. S'il y a des conséquences que l'enfant joue avec le feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le laisser continuer à jouer avec le feu? Jouer avec le feu, c'est dangereux. D'abord, le feu, c'est pas un jouet. Le feu, on l'utilise pour cuire, pour repasser, même pour réchauffer la maison s'il fait très froid dans la maison. Donc le feu n'est pas un jouet. Un enfant qui s'approche du feu, on doit lui dire qu'il doit faire attention. Le feu peut brûler. On le dit régulièrement. Je crois qu'à un certain moment, Rochero avait dit « Sogimana l'inkotia moussapina moto, tikaya tia moussapi et par après, il pourra se rendre compte que ça brûle. » Ça, c'est seulement une façon de parler en image pour dire, quand on dit à quelqu'un de cesser une habitude qu'il ne le veut pas, laissez-le aller jusqu'aux conséquences. Bon, mais si l'enfant ne comprend pas, on ne le laisse pas enfoncer les doigts dans le feu, les parents peuvent tenir le doigt, l'approcher du feu, et même de plus près, et demander à l'enfant qu'est-ce qu'il sent. Il peut se dire, ah, maintenant, ça, la chaleur augmente, ça risque de me brûler. Eh bien, voilà. Quand nous te disons qu'on ne joue pas avec le feu peut te brûler. Et quand on est brûlé, on a des conséquences, on va dépenser de l'argent pour se faire soigner. Je crois qu'il ne faut pas laisser l'enfant jouer avec le feu. Vous vous dites, l'enfant est incompréhensif. Il est incompréhensif à quel niveau? Est-ce qu'il est en train de recopier les habitudes des autres? Tout ça, c'est la responsabilité des parents qui doivent étudier le cas par cas. Chaque enfant est un cas à part, est une personnalité à part. Qu'est-ce qui fait qu'il ne comprenne pas ce qu'on lui donne comme injonction et comme principe à intérioriser? Il faut étudier. Et si on a découvert les causes, on peut appliquer quelque chose sur les causes pour les effacer ou pour les diminuer. En ce moment-là, je crois qu'on peut arriver à une solution. Pour Malonga, à quel moment se débarrasser du désordre des enfants?
Isidore, avant de répondre à Malonga, on peut prendre Madame Mireille Tchela qui nous appelle de Kinshasa, qui est déjà en ligne. Madame Mireille Tchela, bonjour.
Bonjour, bonjour Marcel.
On vous écoute, madame.
Oui, j'ai une préoccupation à soumettre à l'invité. C'est que c'est un cas personnel. Je suis la mère d'un petit garçon qui a maintenant 7 mois. Alors, il est en train de ramper. Maintenant, il rampe. Il se tient debout au meuble et tout. Alors, je vous dis, le petit garçon a une agitation qui n'a pas de nom. Franchement, ça n'a pas de nom. Parce que quand il rampe, il s'emmène partout. Tout ce qui est à sa portée, il prend. Il se tient debout sur le meuble. Il tombe. Alors, il doit pleurer, avoir des gonflements au niveau de la tête et tout. On a jugé bon de lui acheter une trotteuse. Et là, maintenant, c'est plus que le problème. Parce que là, il est maintenant un peu surélevé. Il va toucher tout ce qui est à sa hauteur, tirer tout ce qu'il y a sur les étagères, tirer les rideaux et tout. Franchement, je suis un peu dépassée. J'aimerais un peu que l'invité m'aide un peu à avoir une solution. Et puis, à partir de quel moment je dois lui inculquer des notions pour dire ne touche pas, ne fais pas ça? Parce que maintenant, il connaît son nom. Oui, quand on l'appelle, il peut regarder. Mais quand on lui dit ne touche pas, il en fait toujours à sa tête.
Merci, Madame Mireille Tchela. Vous appelez donc de Kinshasa, ici, dans la vie provinciale de Kinshasa. On va rester à Kinshasa pour donner la parole à Gilbert Kiyama. Gilbert, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Gilbert.
Et les auditeurs de la radio Okapi.
Allez-y, on vous écoute.
Ok, j'ai une remarque, petite remarque de quelques instants. Je suis un auditeur fidèle de la radio Okapi, mais les gens qui appellent souvent, ce sont les mêmes personnes. Nous autres, nous intervenons, nous ne reçoivons pas. Bon, ça c'est une remarque.
Mais Gilbert, là vous êtes déjà en ligne, il faut toujours vous dépêcher d'appeler parmi le premier. On est là à votre service, Gilbert. C'est pas dès le début de l'émission qu'on donne déjà nos numéros afin que vous commencez déjà à appeler. Donc prenez l'habitude d'appeler parmi le premier, Gilbert. On va vous accorder la parole comme c'est le cas aujourd'hui. Vous êtes parmi les premiers à appeler. Allez-y, Gilbert, on vous écoute, on est là à votre service.
Ok, il y a quelqu'un qui a déjà parlé de cette histoire, les enfants qui ne veulent pas écouter. Magilo avait chanté. Ce qui m'a aligné aussi, ma moto, Tikaye lui-même, il va s'éduquer.
Oui.
Ça ne se limite pas avec les enfants. Même si les vieux qui comprennent, il y a des gens qui n'acceptent pas des conseils. Quand on dit ce que tu fais est mauvais, ils n'acceptent pas. Alors, les conséquences, il va se ressaisir maintenant, lui-même va s'éduquer. Donc, il faut laisser le temps au temps. Si un enfant ne comprend pas, ou bien un adulte, d'ailleurs, il y a beaucoup d'adultes, même plus que les enfants, qui ne comprennent toujours en retard après avoir y ait des conséquences. Donc, ce n'est pas mauvais de laisser si quelqu'un n'attend pas les conseils des autres ou bien enfin, laisser le temps là, la conséquence, les conséquences éduquent aussi les gens. Voilà mon intervention.
Merci Gilbert Kiyama. Isidore Bomanaï, là vous avez la préoccupation de Gilbert qui en rejoint presque celui de Malonga, c'est-à-dire à quel moment il faut se dire qu'il faut continuer à bien surveiller l'enfant et puis et à quel moment on peut se dire que non, là on arrête, hein, il faut qu'avec le temps que l'enfant puisse lui-même comprendre que ce qu'on lui interdit de faire, il doit écouter. Et puis il y a également Madame Mireille qui a parlé de cet enfant de 7 mois qui est vraiment... qui est en train de ramper et qui donne du fil à retordre à Madame Mireille. Isidore Bomanaï.
Oui, merci beaucoup Madame Mireille. Merci à Gilbert qui a contribué. Je voudrais revenir à Malonga pour dire que les parents qui ont en charge l'éducation des enfants pourront se dire un jour qu'ils ont arrêté leur action d'éducation, que quand les enfants seront partis de leur maison, qu'ils se soient installés chez eux, qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. Je pense que même à ce niveau-là, c'est vrai qu'on ne prend plus les enfants en charge, mais on continue à les assister d'une manière ou d'une autre, à leur donner des idées pour qu'ils vivent mieux, pour qu'ils vivent dans l'harmonie là où ils sont. Mais dire que c'est à tel moment qu'il faut vraiment se débarrasser des désordres des enfants, je ne saurais pas le dire, mais il faut continuellement éduquer les enfants à la séparation. Il faut que les enfants se rendent compte depuis chez eux qu'un jour nous allons devenir adultes, et devenir adulte veut dire se prendre en charge, assumer ses propres responsabilités. Si les enfants sont éduqués constamment à cette séparation, je crois que l'un ou l'autre jour, ils vont quitter la maison, ils pourront alors s'installer chez eux et les parents peuvent rester aussi chez eux tranquillement. Mais entre les deux, les relations continuent des parents à enfants, parce qu'on a toujours besoin de l'un ou de l'autre. Donc, cette charge est continuelle. Elle peut s'arrêter à 30 ans, à 40 ans. Si vous avez un garçon qui est encore à 40 ans à l'université, c'est-à-dire que vous assumez ses responsabilités. Il a tiré son adolescence en longueur, et un adolescent ne peut pas devenir responsable de lui-même. Si vous avez une fille de 25 ans qui continue à rester à la maison, parce que peut-être on ne l'a pas épousée, je crois que si elle est sous le toit de ses parents, les parents sont un peu responsables de sa vie. Donc il n'y a pas de moment où on peut carrément dire « maintenant nous avons arrêté ». Maman Mireille, votre enfant a 7 mois, il commence à bouger, il commence à ramper, il commence à se mettre debout, il attrape les choses. C'est ainsi que l'enfant apprend à découvrir le monde. C'est pas les toucher, et même parfois aussi par la bouche. Tout ce qu'il a à la main, il a tendance à le porter à la bouche pour sentir si c'est délicieux ou si c'est amer. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais si votre enfant déborde d'énergie et qu'il veut monter sur les tables et qu'il risque de se renverser, madame, bon, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire que vous allez le mettre en prison, mais il faut avoir une surveillance soutenue. Même à cet âge-là, vous êtes rendu compte quand vous l'appelez par son nom, il vous regarde, il sourit. C'est-à-dire qu'il est déjà en train d'emmagasiner. Il est déjà en train de percevoir certaines notions que vous lui apprenez. Donc, de temps en temps, ne vous fatiguez pas. De temps en temps, ne touchez pas au rideau. Ne tirez pas les rideaux.
Il faut déjà lui parler, il faut déjà parler à l'enfant de temps en temps.
Sois gentil, mon fils. Fais ce que ta mère te demande. Et ça ne coûte rien. C'est un petit effort, un petit exercice à faire chaque jour avec patience. Il ne faut pas vous dire ce que vous avez commencé avec cet enfant de 7 mois doit être intériorisé. Non, ce ne sera pas possible. C'est un effort continuel, surveillance soutenue. Mais de temps en temps, vous lui dites calmement, ne monte pas dans la chaise, tu risques de te renverser. Et cela restera petit à petit dans son cerveau. il pourra peut-être changer de comportement. Marcel, j'ai eu l'impression que tu voulais dire quelque chose.
Non, j'ai dit à madame, il faut de temps en temps, c'était pour appuyer ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que madame, il ne faut pas attendre à quel âge qu'il faut commencer à parler à l'enfant, il faut déjà, dès maintenant, commencer de temps en temps à parler à l'enfant. Donc voilà, on va poursuivre avec vous le temps d'accueillir Étienne Katsumanga qui nous appelle du Kananga dans le Kasai occidental et Némi Lumbuku, lui, se trouve à Matadi dans le Bas-Congo. Étienne Katsumanga, bonjour.
Jean-Lise.
On vous écoute, Étienne.
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je tiens d'abord à vous remercier, pourquoi pas, notre invité Isidore Bamanaï. J'ai deux préoccupations. La première est de savoir, l'invité peut m'aider. Il a parlé un peu des objets tranchants. Il nous a dit qu'il faut les cacher. Mais quand je dis aux enfants, peut-être les couteaux sont mis et le machette, ils sont quelque part, personne n'arrive pas à toucher. Vous trouvez, mais pendant la journée ou soit pendant la nuit, comme l'enfant sait que le père met des couteaux quelque part, il va faire sortir cela. Maintenant, lorsqu'il cherche maintenant à cacher pour ne pas dire aux enfants que c'est mis quelque part, mais vous trouvez l'enfant en train de se demander, mais finalement le père nous interdit de ne pas introduire la main, mais qu'est-ce qu'il a mis à l'intérieur de ce coffre ou bien à l'intérieur de cette armoire. Donc l'enfant cherche maintenant à casser pour voir ce qui est à l'intérieur. Le mieux à faire, c'est quoi ? Informer les enfants que les objets tranchants sont mis quelque part pour que l'enfant puisse les faire sortir pendant la journée, ou bien tâcher à l'enfant, interdire aux enfants de ne pas introduire la main, et puis que les enfants arrivent à casser pendant la journée pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxième préoccupation. Personnellement, j'ai mes défauts. En fait, je suis en train de lutter contre mes défauts. Mais je vois que j'ai un enfant qui est né au monde avec mes défauts. C'est-à-dire, souvent, moi, je suis habitué à créer une bonne relation avec les autres. Je ne veux pas être en conflit avec les gens. Mais si quelqu'un arrive à me poser un acte qui ne me plaît pas, j'ai toujours du mal à supporter ça. Alors, j'ai un enfant qui a le même caractère. Il cherche un peu à créer de bons voisinages avec ses amis, mais chaque fois qu'il y a une erreur, vous trouvez qu'il a du mal à supporter les erreurs de ses amis. Je ne sais pas, l'invité peut m'aider. Comment je peux aider mon fils à quitter un peu de mes caractères, qui est tout à fait défaut, que moi, son père, je suis en train de lutter pour un peu quitter dans cet endroit-là. Merci beaucoup.
Merci, Étienne Katsumanga. Némi Lumbuku, vous êtes à Matadi dans le Bas-Congo. Bonjour, Némi.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Némi.
Oui, je salue d'abord les auditeurs de Radio Okapi de toute la République, et particulièrement ceux du Bas-Congo. Moi, j'ai deux préoccupations.
Oui.
La première est celle de savoir si pendant l'éducation, que quand l'enfant grandit, quand on éduque l'enfant, est-ce que taper un enfant, c'est vraiment important ou il faut toujours insister sur certains points pour que l'enfant intériorise ça? Au lieu chaque fois que l'enfant commet un bévis ou soit des petites erreurs, il faut taper. Bon, ça c'est la première que je pose à notre invité. Mais la deuxième, c'est concernant l'utilisation du courant, parce que nous, au Bas-Congo, nous avons un petit problème, particulièrement à la bifurcation de Inga, où il y a eu coupure d'électricité, parce qu'il y a le transfert qui est abîmé. Bon, en fait, l'État devait interdire l'importation, par exemple, des réchauds à quatre pattes, qu'on appelle bilocos communément, parce que ça consomme souvent beaucoup d'électricité, et l'utilisation des ampoules qui n'est pas condensant, si c'est condensant, les ampoules à 100 watts, pour permettre à ce que nos transports puissent durer. Ce sont des transports d'occasion souvent qu'on nous amène, donc c'est un problème. Donc c'est ça ma deuxième préoccupation en tant qu'auditeur fidèle de Radio Capi, que je veux aussi lancer aux autorités qui nous écoutent.
Merci Némi, vous appelez donc de Matadi dans le Bas-Congo, Isidore Bamanaï.
Oui, merci Marcel, merci à Étienne. Il a dit, j'ai demandé que l'on puisse cacher les objets tranchants. Je crois avoir dit plutôt qu'il faut les mettre à un endroit où l'enfant n'a pas un accès facile. Quand il s'agit d'un tout petit, là, d'une année et demie, deux ans, trois ans, parce que s'il les manipule, il risque d'être blessé. Je n'ai pas dit qu'il faut cacher. Même quand j'ai dit qu'il faut enfermer dans la maison, cela ne veut pas dire qu'on doit cacher, parce que de temps en temps, on les utilise. On peut même demander à l'enfant, donne-moi ce couteau-là. Quand il donne le couteau, il faut lui montrer comment on donne le couteau. Donc, il faut vraiment faire attention de telle manière qu'il ne puisse pas manipuler lui-même l'objet tranchant au moment où il est seul, parce qu'il risque de se blesser. C'est à ce moment-là qu'un accident est vite arrivé. Quand vous dites interdire, oui, interdire, c'est pas un bon truc dans le processus de l'éducation. Si on éduque par l'interdiction, rassurez-vous, la transgression est vite arrivée. Interdire, c'est une manière négative de transmettre les instructions aux enfants. Il faut plutôt dire à l'enfant ce qu'il doit faire, de telle manière qu'il puisse déployer son énergie dans les activités qu'il doit mener chaque jour. Mais il faut aussi lui dire comment on les fait. De telle manière que quand il s'emploie à exécuter ce que vous lui avez demandé, qu'il puisse suivre les instructions que vous lui avez données. Donc interdire, ce n'est pas très bien dans le processus de l'éducation. Il faut plutôt dire à l'enfant ce qu'il doit faire. Vous dites que vous avez un enfant qui vous ressemble, qui ne supporte pas les erreurs de l'autre parce que lui, il aime être en bonne relation avec les gens comme vous le faites vous-même.
Quelqu'un a copié les défauts de son père.
C'est un défaut, je ne sais pas. Si on ne supporte pas les erreurs, ce serait peut-être une qualité qui a un peu d'exagération. Mais moi, je veux vous dire à vous, Étienne, que la meilleure façon de corriger votre enfant, c'est de faire fournir un effort vous-même pour changer. Changer, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que nous sommes tous faillibles. Même vous, qui avez de bonnes relations avec les autres, il peut toujours arriver qu'à un certain moment, vous puissiez commettre une erreur qui n'arrange pas les autres personnes autour de vous. Donc, il faut comprendre que nous sommes tous faillibles. Chez nous, ici, on dit c'est-à-dire, on a toujours un défaut quelque part. Donc, il faut en tenir compte dans nos relations avec les gens. Et moi, je pense que si vous changez vous-même et que votre fils remarque que vous avez changé, il sera influencé que de lui parler tout simplement. C'est comme nous avions une dame qui a suivi la formation éducation à la vie. Elle ne supportait jamais que l'on casse un verre à la maison. Un jour, un enfant avait cassé un verre. On a dit à l'enfant, « Ah, ici, aujourd'hui, vous en avez pour votre compte. Attendez que maman arrive. » Dès que la mère est rentrée à la maison, tous les enfants ont couru, « Oh, maman, tu l'as cassé un verre. » La mère a répondu calmement, « Oh, mes enfants, vous savez, ça peut arriver à tout le monde. Même moi, ça peut arriver que je casse un verre, c'est pas grave. Nous allons acheter un autre verre à remplacer. » Les enfants ont été éblouis. Ils ont dit, « Mais c'est pas possible. Mais maman, on ne te reconnaît pas. Tu as changé. » La maman a dit, « Oui, j'ai changé. J'ai suivi une formation quelque part qui a fait que je puisse changer pour que le climat ici à la maison soit toujours un bon climat. Voilà. » Donc, si vous changez, Étienne, l'enfant là va changer aussi. Notre ami Némi dit, est-ce qu'il faut taper un enfant? Bon, je crois que ça sort un peu du sujet, mais je le remets dans le sujet. Si vous tapez un enfant, un accident est aussi vite arrivé. Vous risquez de crever l'œil à l'enfant, vous risquez de le blesser, vous risquez de lui fracasser le bras. Je crois qu'à ce moment-là, vous avez causé vous-même l'accident à l'enfant. Taper un enfant, ça rentre dans le cas de violence et de torture. Taper n'a jamais éduqué. Vous savez, les enfants qui tapent, ils tapent aussi les autres, comme pour se venger des coups qu'ils ont encassés de leurs parents. En ce moment-là, nous transmettons la violence aux enfants, nous n'avons pas amélioré les choses. Je sais que ça arrive que les parents tapent les enfants. Mais si ça vous arrive de taper un enfant, je crois qu'il faut d'abord parler avec lui, le convaincre qu'il a mal fait. Il a mal fait. Est-ce qu'il se rend compte qu'il a mal fait? S'il ne se rend pas compte, si vous le tapez, il devient plus têtu qu'avant. Parce qu'il va se dire, mais moi je n'ai rien fait, je ne vois pas pourquoi on m'a tapé. Donc convaincre un enfant sur sa faute, c'est déjà beaucoup d'énergie qu'on a déployée, c'est déjà un effort conséquent. Parce que sa conscience va le reprocher, et pour la fois prochaine, on va lui dire, écoutez, nous avions parlé avec vous, nous constatons que vous revenez sur les mêmes erreurs, maintenant on va un peu te gifler et on le fait calmement. Parce que si on est fâché quand on tape un enfant, on peut envoyer un coup, on peut donner un coup de tête, un coup de pied, et à ce moment-là, un accident est vital.
Et on va le regretter.
Mais
après.
Ce que vous avez demandé pour le courant, les réchauds et les ampoules,
J'avoue que je n'ai pas de notion là-dedans. Je crois que ceux qui ont étudié l'électricité, s'ils vous ont écouté, ils peuvent intervenir au cours de l'émission.
Voilà Isidore, on va s'arrêter par là. Donc on rappelle que vous étiez notre invité pour répondre aux préoccupations et questions de nos auditeurs par rapport à ces sujets. Comment prévenir les accidents domestiques chez les enfants? On retient donc il faut prendre beaucoup de précautions, surtout lorsqu'on a des enfants turbulents et lorsqu'on sait que un accident peut arriver par rapport à des objets comme le réchaud, à des objets comme le fer à repasser, même tout autre chose qui peut provoquer un accident. Et puis surtout, chaque fois qu'il y a un accident, savoir parler aux enfants avec tendresse et les aider à comprendre avec le temps qu'il n'est pas bon de faire ceci ou cela parce qu'il y a risque.
Voilà.
Voilà Isidore Babanaï, merci beaucoup d'avoir été de notre. On rappelle que vous êtes éducateur à la vie, à une prochaine occasion.
Merci Marcel, au revoir aux auditeurs de la radio Capitaine.